Amen, gloire à Dieu. Je me réjouis du temps déjà qu'on a pu passer ce matin dans la louange, dans ces témoignages, de constater que le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Pour ceux qui auraient des doutes, le Saint-Esprit agit encore et vraiment je me réjouis de cela. Peut-être certains se disent, mais ce baptême là c'est quand même quelque chose. Je sais que souvent les personnes qui sont en préparation, il y a une appréhension, c'est pas trop d'être baptisé, c'est de témoigner publiquement et de dire « Ah, oh, mais c'est aussi manifester l'œuvre de Jésus dans la vie. » Alors oui, c'est un pas qui n'est pas facile, c'est un pas de foi, c'est un pas parfois un peu d'humilité parce qu'il y a l'émotion, mais c'est aussi témoigner de ce que Jésus fait dans les cœurs. Et je voudrais partager ce matin quelques pensées assez courtement d'un homme qui aussi un jour a eu à affronter le regard des autres. Et parfois, on se dit, doit-on affronter le regard des hommes ou être sous le regard de Dieu ? Et moi, je sais que je préfère le regard et l'approbation de Dieu, mais parfois, entre les deux, ça tiraille un petit peu. Alors, je voudrais lire un texte en introduction avec vous dans le deuxième livre des Rois. De Rois au chapitre 5. Cet homme-là, c'était d'autant plus difficile. Vous allez le voir, plusieurs connaissent ce passage, mais c'était quelqu'un en plus qui était élevé en dignité, qui était certainement connu, qui avait une réputation, et il a fallu qu'il passe par un chemin où Dieu l'a fait traverser un temps pas facile, et il a fallu aussi qu'il apprenne l'humilité et l'obéissance. Deux Rois au chapitre 5, et je lirai les 14 premiers versets. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6 000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et lui dire « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Naaman, un homme qui a tout, à vue humaine, tout pour être heureux, la réussite, la bonne situation professionnelle, chef de l'armée du roi de Syrie, aujourd'hui, on pourrait dire peut-être général en chef des armées, voire ministre de la Défense, mais je pense qu'il était un homme de guerre, de combat. Il avait un rang social honorable, il était très proche du roi, il avait même l'approbation du roi. Il a réussi financièrement, il est riche. Pour vous donner une idée, quand il a fait ce voyage, je vous l'ai dit qu'il avait avec lui 10 talents d'argent et 6000 sicles d'or. Alors, les historiens essayent de reconstituer ce que ça pouvait valoir. 10 talents d'argent, selon les fourchettes, c'est environ entre 300 et 400 kilos. Vous imaginez cet homme. Je ne sais pas s'il avait vidé son compte épargne, mais il s'est dit « je vais me rendre là-bas pour être guéri ». J'emmène 300, 350, 400 kilos d'argent et puis entre 70 et 100 kilos d'or. Il est brillant intellectuellement, c'est certainement un bon tacticien. Et pourtant, il y a un mais. C'est un homme fort et vaillant, mais il y a un mais, il est atteint de la lèpre. Alors au sens propre, la lèpre, une maladie de la peau qui est contagieuse, qui provoque des lésions et qui progresse pour devenir permanente, pour toucher la peau, les nerfs, les membres, les yeux. C'est une maladie qui ronge progressivement. Et à l'époque, très peu de personnes en guérissaient. C'était l'exclusion, parce que comme c'était contagieux, il fallait vivre en dehors de la communauté. Mais au sens figuré, on sait aussi que la Bible nous parle de la lèpre comme du péché, qui fait aussi ses ravages dans les vies de ceux et celles qui vivent sans le salut de Jésus-Christ. Et ce chef de l'armée se retrouve dans une situation humainement insoluble, ni son rang social, ni sa réussite professionnelle, ni toute la considération du roi, ni ses richesses, ni ses capacités humaines, rien ne peut le sortir de sa situation désespérée. Elle purifiait de sa lèpre. Alors cet homme-là va faire trois rencontres, c'est un texte qui est très riche et je ne m'attarderai pas ce matin sur tous les points, je voudrais juste m'arrêter sur trois rencontres différentes qu'il a faites au travers le récit que nous avons lu. La première rencontre, elle est d'une simplicité. Il rencontre une petite fille dans sa maison, la petite fille du peuple d'Israël qui est emmenée captive en Syrie. Elle s'est retrouvée servante de sa femme et on ne connaît quasiment rien d'elle. On sait Naaman, alors Naaman, on a tout son CV presque, mais cette petite fille, on ne sait pas. On ne sait pas quel âge elle a. Une petite fille, on peut penser peut-être préadolescente. Depuis combien de temps elle est là? Comment elle s'appelle? Elle vit dans l'ombre. Elle vit dans l'ombre, mais elle va jouer un rôle déterminant dans la vie de Naaman. Peut-être même que ses parents sont morts quand l'armée de Syrie a envahi le pays. On ne sait pas, on ne va pas inventer des choses. En tout cas, elle est dans une situation particulièrement compliquée pour une petite fille. Mais il y a quelque chose qui est profondément ancré en elle. Son Dieu est celui qui a la solution. Alors elle aurait pu se dire, ouais, vu ma situation, ce que Dieu a permis, et pourquoi je suis loin de mon pays, je suis loin de mes proches, je suis en exil, comment est-ce que je peux en croire encore en un Dieu qui est tout-puissant? Oh non, j'y crois plus, je laisse tomber. Non, elle ne s'est pas arrêtée aux circonstances. Dans le cœur de cette toute petite fille-là, il y a un feu qui brûle encore. Elle ne s'arrête pas aux circonstances de sa vie, elle ne s'apitoie pas sur son sort. Elle sait simplement et fermement en qui elle croit. Malgré ce qui se passe dans sa vie, elle sait que son Dieu est vivant et qu'il peut agir. Alors elle dira à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » C'est d'une simplicité, mais d'une conviction. Elle n'a pas dit « peut-être que je ne sais pas maintenant comment ça se passe ». Non, il n'y a même pas l'ombre d'un doute, le prophète le guérirait de sa lèpre. Elle ne fait pas des grands discours théologiques. Elle témoigne simplement de sa foi en celui qui peut purifier Naaman de sa lèpre. Dieu a permis que cette petite fille vive un parcours de vie douloureuse. Parfois, quand on marche avec Dieu, ça nous a été rappelé. Dieu permet des circonstances parfois difficiles dans nos vies. Et on chantait ce chant, « Abrite-moi sous tes ailes » quand la tempête est là. Et parfois, on demande au Seigneur de calmer la tempête et il calme la tempête. On a des récits magnifiques dans les évangiles. Mais parfois, il ne calme pas la tempête. Parfois, la tempête continue à gronder, par contre, il nous cache. Il nous met au creux du rocher et les vents peuvent souffler, la tempête peut faire rage. On est abrité sous les ailes, on est abrité dans le creux du rocher, on est abrité en Jésus-Christ. Et il permet des circonstances parfois difficiles, mais au travers desquelles il peut et il veut se servir de nous pour manifester toute sa gloire. Même si à l'instant où nous le vivons, des doutes peuvent venir. si nous avons cette confiance en Dieu, alors il peut se servir de nous pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Et sans le témoignage de cette petite servante, la vie de Naaman était condamnée. Elle a eu un impact qu'elle n'avait certainement pas soupçonné. Et on va voir que Élisée a eu un rôle en tant que prophète de Dieu, mais si cette petite fille-là n'avait pas témoigné, rien ne serait passé derrière. Et Naaman serait mort, atteint par sa lèpre. Naaman va faire une deuxième rencontre. Il va rencontrer le roi d'Israël. Alors là, il y a eu un petit problème d'aiguillage ou de compréhension. Lui qui, je pense, était intellectuellement, ça devait quand même plutôt bien fonctionner. La petite servante n'avait pas envoyé Naaman vers le roi d'Israël, elle l'avait envoyé vers le prophète Élisée. Et peut-être qu'il s'est dit, mais c'est qui Élisée? Moi, je ne connais pas. Non, non, je vais user de mes relations, je vais m'adresser directement au roi. Lui, le chef de guerre, habitué aux meilleures tactiques, il va se construire son plan d'action en s'appuyant sur ce qu'il rassure. Il se fait rédiger une lettre de recommandation par son ami le roi de Syrie. Il ira remettre directement cette lettre au roi d'Israël. Et puis il s'est dit, voilà, le roi d'Israël va faire ce qu'il faut. Je serai guéri, c'est bon, tout est réglé, je rentre chez moi, tout va bien. Mais il ne se doute pas à ce moment-là de ce qu'il attend. D'autant que le roi qui régnait à cette époque-là sur Israël était Joram, dont il est dit quelques chapitres avant, chapitre 3 dans le même livre des deux rois, chapitre 3, verset 2, il est parlé de Joram, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Alors, il y avait une belle lettre de recommandation pour le roi, mais elle n'a pas eu l'effet escompté. Bien au contraire, le roi y a vu une mauvaise intention de la part du roi de Syrie. Et là, notre nature humaine, comme Naaman, encore bien souvent aujourd'hui, on a tellement de facilité à se confier dans les puissants, dans ceux qui ont du pouvoir, à rechercher des solutions humaines, plutôt que de se confier dans celui qui peut tout et qui transformera radicalement le mal en bien. Le prophète Jérémie écrivait ceci, c'est un texte qui est bien connu des chrétiens, au chapitre 17 et verset 5, il dit ceci, « Ainsi parle l'Éternel, voilà ce que dit Dieu, maudit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Se confier en l'homme, dans les puissants de ce monde ou se confier en l'Éternel, c'est l'un ou c'est l'autre et Dieu est extrêmement clair par rapport à ça. Et puis Naaman va faire une troisième rencontre parce que finalement son plan a échoué, notre général s'est fait jeter du palais royal. Élisée va dire au roi, parce que Élisée l'a appris, il dit au roi, envoie-le-moi. Alors Naaman arrive, on va le mettre en version un peu contemporaine. Moi j'ai écrit Naaman arrive, il gare sa limousine avec chauffeur devant la maison d'Élisée, c'est à peu près comme ça que ça se passerait aujourd'hui, où il arriverait en hélicoptère, et il attend que quelqu'un vienne lui ouvrir la porte. Mais Élisée ne sort même pas sur le seuil de la porte pour l'accueillir. Ça c'est quelque chose qui m'a surpris. Élisée se contente d'envoyer un serviteur. Serait-il plein de mépris, de suffisance? Il ne se rend pas compte. Le pauvre Élisée, il a une super opportunité d'élargir son réseau d'influence. Un petit selfie avec le général Naaman, ami sur Facebook et compagnie. Non mais, on rigole, mais si on transpose ça aujourd'hui, je pense que je ne suis pas trop loin de la vérité. Élisée ne sort même pas de la maison, il envoie un serviteur. Mais Élisée est remplie d'humilité, elle ne veut pas de la gloire des hommes. Il veut que toute la gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Et son message va être d'une simplicité déconcertante. Là aussi, pas des grands discours. Le serviteur va dire de la part de l'homme de Dieu, « Va, lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et là, alors là, Naaman, tout s'écroule. C'est la désillusion la plus totale. Jamais il avait imaginé ça, faire un voyage. Il a amené de l'or, de l'argent. Il s'est dit, je vais rencontrer des grands du peuple d'Israël. Et là, on lui dit, va te laver dans la Vilaine. Et tu vas voir, cette fois dans la Vilaine, tu ressors, ça va aller. Et là, il se dit, mais qu'est-ce qui lui prend, quoi ? C'est pas ça que je suis venu chercher. Et une fois de plus, sa stratégie a échoué. C'est pas comme ça qu'il avait prévu le scénario, lui. Mais oui, parce que Dieu, il ne prévoit pas les choses comme nous, on les prévoit. Et au verset 11, Naaman dit, voilà ce que je me disais. Il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Là aussi, imaginez la scène. Général Naaman, bonjour, enchanté. Moi, c'est prophète Élisée, hein. Diplômé de la faculté de théologie de Jérusalem, maître de conférences, enseignant à l'école des prophètes de Samarie. N'hésitez pas à parler de moi. Autour de vous, je reçois tous les jours sur rendez-vous. Non, mais c'est un petit peu comme ça, j'exagère à peine. Je vous laisse ma carte de visite, appelez-moi quand vous voulez. Vous remarquerez que l'homme de Dieu ne s'est pas mis en avant, il n'a pas déroulé son CV pour se faire mousser. Sa seule carte de visite, ce sont les fruits de sa relation intime avec Dieu et de son approbation sur sa vie. Quand on relit les chapitres qui précèdent et qu'on voit la vie d'Élisée, et là aussi, je fais une petite parenthèse qui n'est pas sur mes notes, mais quand je vois parfois des chrétiens courir après des, je vais mettre quelques guillemets, des hommes de Dieu, où plus le CV est long, plus on s'étale et plus on a tendance à être attiré, attention, attention, attention. Cherchons les fruits, cherchons l'approbation de Dieu. Et le véritable homme de Dieu, il est reconnu par les fruits qu'il porte. Il n'est pas reconnu par l'étiquette, il n'est pas reconnu par son CV. Gloire à Dieu pour les hommes qui ont des ministères authentiques et puissants et bénis de Dieu, mais ne soyons pas attirés par le CV, soyons attirés par Dieu. Alors Naaman se disait, voilà, il va invoquer le nom de l'Éternel, il va agiter sa main et je serai guéri. Ça. Là encore, il avait tout écrit. Et est-ce qu'on ne fait pas un peu comme ça parfois ? Quand on recherche Dieu ou... Même étant enfant de Dieu, engagé avec lui, « Seigneur, écoute-moi un peu, voilà ma situation, je t'explique, au cas où tu n'aurais pas compris. Donc tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ci, ça va se passer comme ça. » Et puis on commence à écrire un petit peu, en disant « Seigneur, regarde, je t'ai tout écrit, tu n'as plus qu'à faire. Hein ? Moi j'écris, toi tu agis. » Qu'est-ce qu'on aime bien proposer nos scénarios au Seigneur ? Et si Dieu avait prévu d'agir différemment ? Alors, comme Naaman, il s'est irrité, parfois on s'impatiente. Naaman est devenu furieux et il tournait le dos pour repartir. Il était venu avec sa lèpre et il était prêt à repartir avec sa lèpre. Furieux de ce que les choses ne s'étaient pas déroulées comme il le souhaitait. Et parfois, on boude. Parfois, on s'impatiente. Parfois, on est un peu en colère parce qu'on a prévu et puis Dieu n'y répond pas comme on veut. Mais si Dieu avait prévu d'agir différemment, est-on prêt à se laisser surprendre par Dieu ? Et si c'était lui qui avait raison ? Oui, oui, c'est Dieu qui a toujours raison. Alors c'était compliqué pour Naaman, c'était compliqué parce qu'il fallait publiquement qu'il descende là au bord du Jourdain, qu'il se trempe dans l'eau, lui l'homme qui avait l'habitude des honneurs. Et il s'est dit, mais il faut presque, pour se tremper dans l'eau, fallait qu'il... Ouh, j'ai du mal à plier le genou. J'ai du mal, ben oui, il fallait plier le genou. Il fallait accepter devant les hommes de s'abaisser. Naaman a fini par laisser place à l'humilité et à l'obéissance. Deux qualités, je pense qu'il n'avait probablement pas l'habitude de manifester. Parce que l'obéissance, il avait l'habitude que ce soit lui qui donne les ordres. Il n'avait pas l'habitude d'en recevoir. C'était lui le chef. L'humilité, parce qu'il était élevé en dignité, et je pense qu'il faisait à peu près tout ce qu'il voulait. Et là, il fallait qu'il s'humilie. Mais c'est seulement à cette condition que Dieu a pu intervenir et le purifier de sa lèpre. Vous pourrez, si vous souhaitez, méditer sur les versets suivants, les versets 15 et 16. Élisée refuse les cadeaux de Naaman, il ne veut pas de l'or et l'argent. Signe d'un véritable homme de Dieu. Là encore, moi je suis parfois estomaqué de voir sur certains sites internet les boutons fait un don, parfois ils sont plus gros que... Et bon, vous aurez compris. Vous aurez compris. Élisée, lui, il n'a pas voulu de tout ça. Il n'a pas voulu de tout ça. Lui, chercher l'approbation de Dieu. Ces quelques pensées nous amènent à réfléchir à notre manière de conduire notre vie. Peut-être plusieurs ce matin sont en recherche, en questionnement. Peut-être vous découvrez un lieu comme celui-ci, avec des baptêmes, avec une annonce de l'Évangile comme ça a été fait, avec de la louange, des gens qui s'expriment, des prières spontanées. Vous vous dites, mais c'est quoi tout ça? Je ne suis pas habitué, moi. Dans mon schéma, dans ce que j'ai appris, ce n'est pas comme ça que j'ai appris les choses. Mais si Dieu voulait faire autrement dans ma vie, si Dieu voulait faire autrement dans ta vie d'homme, de femme qui cherche, qui chemine, dans ta vie d'homme, de femme chrétien engagé avec Dieu, et si Dieu voulait faire autrement? Et si Dieu voulait faire autrement? Quel est notre niveau de confiance en lui, notre capacité à accepter sa volonté, à nous humilier et à lui obéir pour qu'il transforme et purifie nos vies? La lèpre, qui symbolise aussi le péché, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'un chemin. Folie pour ceux qui ne croient pas, un homme qui meurt sur une croix, du sang qui est versé, mais c'est quoi toutes ces histoires là, c'est n'importe quoi. Comment un homme, parce qu'il meurt sur une croix, peut sauver les gens de leur péché? Mais ce n'est pas un homme comme les autres, ce n'est pas un sacrifice comme les autres. C'est la folie d'aller se plonger dans le Jourdain. C'est la folie humaine de croire que Jésus, sur une croix, peut sauver, peut purifier du péché, peut purifier les pensées impures, peut purifier des liens de ce qui ronge les vies comme la lèpre. Mais puissance pour le salut de quiconque croit. Amen. Alors que ce matin, nous nous laissions encore toucher par cet amour, par cette grâce que nous avons chantée, par ce cadeau magnifique, et que nous acceptions l'humilité et l'obéissance dans nos vies pour que Jésus vienne encore agir et encore dans nos vies. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Et je veux pour ma part me laisser toucher, je veux me laisser bousculer dans ma vie par toi Seigneur. Combien j'ai encore si facile à échafauder mes raisonnements, à échafauder mes plans. Je veux abandonner tout ça, Seigneur. Je veux abandonner tout ça ce matin et te dire, viens, prends la place, Seigneur. Conduis ma vie comme bon te semble. Emmène-moi dans des sentiers, Seigneur, où je sais que c'est toi qui vas conduire mes pas. Je te prie, Seigneur, que ta parole, par ton Saint-Esprit, puisse toucher nos cœurs, puisse nous faire grandir dans notre intimité avec toi, dans notre relation. Je te prie pour nos amis qui sont là ce matin, peut-être qui découvrent, qui recherchent, qui sont peut-être interpellés par cette annonce de l'Évangile, que les cœurs soient touchés, Seigneur, qu'il n'y ait pas de rejet, Seigneur. Tu te laisses trouver par celui qui te cherche. Alors nous voulons ta gloire et ta gloire seule. Viens te manifester dans les vies, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu. Amen. Amen.